Radicaux libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont présents sur la page de l'émission qui s'intitule aussi Radicaux Libres, l'émission et la page sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler des valeurs du libéralisme économique, mais dites donc, c'est toutes les semaines, il faut dire que ça nous occupe pas mal. On sait déjà que l'égoïsme inhérent à la philosophie du libéralisme économique entraîne des actions inhumaines, allant jusqu'à la mort, oui. Les affaires liées au lait pour bébé en sont encore une illustration. Et cette semaine, on apprend que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sera amputé de 1 milliard d'euros sur les 3 prochaines années parce que la France ne les versera plus ces milliards. Pourquoi ? Eh bien pour des raisons financières. L'idéologie libérale pro-business qui favorise les plus riches et le monde de l'économie capitaliste a pour conséquence immédiate de faire baisser les recettes de l'État. Bah oui, parce qu'il faut éviter soigneusement de taxer les revenus des copains de classe sociale. D'où des services publics en berne, la marchandisation croissante d'activités auparavant assurées par l'État dans le pays, eh bien à l'étranger, cette politique d'avantager les plus riches entraîne, elle, la réduction des aides aux pays les plus pauvres. Ces pays qui sont victimes de fait de la compétition, si chère aux libéraux en économie. Une compétition qui a d'ailleurs amené à la colonisation au 19e siècle, au surendettement au 20e siècle, aux ajustements structurels demandés par le FMI et consorts. Ajustements structurels qui voulaient en fait dire destruction des services publics naissants dans les pays nouvellement indépendants. Ça s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Alors la prochaine fois que des libéraux en économie voudront vous vendre des valeurs républicaines, comme la fraternité par exemple, ouais, alors moi je suis plus démocrate que républicain, mais quand même, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, ça vaut peut-être le coup de les défendre. Eh bien, quand quelqu'un de libéral en économie voudra vous vendre ce genre de choses comme la fraternité, n'oubliez pas, il n'a pas un échantillon sur lui. On aurait pu également vous parler de la loi Duplon 2 qui est dans les tuyaux au Parlement. Bah oui, parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps et ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, comme disait l'autre. Et donc, du coup, il y a des députés, LR, des sénateurs, LR, qui nous rebalancent des idées de quoi ? Eh ben des idées de « tiens, si on pollue encore plus en produisant de la nourriture que l'on va exporter ». C'est dingo, non ? Eh bien du coup, ça suscite quand même un certain nombre d'oppositions. Il y a des gens qui sont pas très contents. Ça, par exemple, c'était au Mans. Mais de fait, samedi 7 février, dans toute la France, des rassemblements ont eu lieu contre ce ressucé de loi. Au Mans, il y avait plus de 200 personnes devant la préfecture qui écoutaient les prises de parole. En vrac, des gens et puis des militants, portant drapeaux et banderoles, siglés vert, attaque, la Confédération Paysanne, le Point Levé, c'est-à-dire l'organisation estudiantine de révolution permanente, Greenpeace, la FSU, etc. Ensuite, tout ce beau monde est allé faire un petit tour en ville. Alors, les renseignements territoriaux avaient informé les organisateurs du rassemblement qu'il était interdit de manifester hors des trottoirs. Alors, on a cherché, mais on n'a pas trouvé d'arrêté préfectoral sur le sujet. Ouais, ce serait pas mal que la préfecture, plutôt que de mettre des petits coups de pression, produise des documents officiels. Auquel cas, ceux qui organisent pourraient s'appuyer dessus. Oui, parce qu'on est encore dans un état de droit, même si c'est un problème pour une partie des syndicats policiers, même si c'est un problème pour d'autres, comme par exemple Éric Zemmour qui l'a dit tel quel. Ceci étant dit, ça n'a pas empêché le fait qu'il était interdit de manifester hors des trottoirs, ça n'a pas empêché 150 et quelques personnes de dire leur refus de la loi Duplon 2 sur des banderoles trimballées dans le centre-ville. Mais au fait, pourquoi être contre la loi Duplon 2 ? Eh bien pour les mêmes raisons que la loi Duplon 1, parce que les deux lois promeuvent une production qui contient des pesticides, dont on connaît l'effet mortel sur les humains, en premier lieu, sur ceux qui les utilisent, les agriculteurs, les effets perturbateurs sur les glandes endocrines qui servent à nous faire grandir et à réguler nos humeurs. Ça sert aussi à quoi les pesticides ? Eh bien ça sert aussi à abîmer les autres animaux que les animaux humains, qui en sont aussi victimes. Alors ne parlons pas des végétaux, des insectes, des champignons, qui sont tout simplement considérés comme nuisibles et qui sont la cible de ces pesticides. Eh bien parce que aussi les deux lois, Duplon 1, Duplon 2, favorisent un modèle d'exploitation agricole productiviste, avec des primes au plus gros. Parce que également la loi Duplon 2 bétonne juridiquement la réintroduction de pesticides comme les néonicotinoïdes, et puis parce que M. Duplon serait en plein conflit d'intérêts du fait de sa double casquette. Sénateur de droite et associé dans un groupement agricole d'exploitation en commun, un GAEC, qui est l'une des formes juridiques d'une exploitation agricole. Pour mieux comprendre, vous aurez avantage à lire l'enquête du site bonpote.com. Bonpote.com, ouais, alors dans la recherche, alors bonpote.com. Dans la barre de recherche, vous balancez Duplon et vous en saurez beaucoup plus sur les subventions versées au GAEC de Monsieur Duplon et consorts par la PAC et par la région Auvergne-Rhône-Alpes de son ami, c'est lui qui le qualifie ainsi, Laurent Wauquiez. Alors Laurent Wauquiez, si vous le connaissez, c'est le pourfendeur des assistés qui se fait payer des bouffes à plusieurs centaines d'euros par tête de pipe à nos frais. Ouais. Alors comme assisté, on a fait mieux. Comme lutteur contre les assistés, on a fait mieux. Bonpote.com pour le boulot que ne fait plus trop le service public. Eh bien, cette lutte contre la loi Duplon, elle continue avec une nouvelle pétition. Pourquoi je me marre? Eh bien, parce que lancé dans votre moteur de recherche préféré, ça peut être Ecosia, par exemple, hein, vous tapez pétition Ludovic Lévy, puisque c'est un certain Ludovic Lévy qui l'a initié. Il y avait environ 250 000... signature ce matin, il a lancé ça au début du mois de février. Ça risque de faire beaucoup à un moment. Donc allez voir ça, pétition Ludovic Lévy, les pétitions de l'Assemblée nationale. La dernière avait réuni plus de 2 millions de signatures et a donné l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale le mercredi 11 février. Là encore, rassemblement de plusieurs centaines de personnes, nous dit la presse, pour dénoncer les valeurs de l'agriculture productiviste qui est finalement le vulgaire pendant agricole de la fast fashion. Produire et vendre beaucoup par tous les moyens. Si vous connaissez des exploitants agricoles coincés dans leur filière et leurs dettes. La maison des paysans, avenue Georges Auric, au Mans, bah c'est déjà peut-être un premier lieu de discussion possible. Et puis, qu'ils partent de la FNSEA. On aurait pu vous parler également des Jeux Olympiques qui suscitent les réactions qui agitent, pardon, les rédactions depuis une semaine. Pas un journal sans son décompte de médailles. Important. Un décompte objectif, hein, bien sûr, qui cache la réalité des critères d'obtention de ces médailles. Pourquoi? Eh bah parce que pour les obtenir, ces médailles, il faut faire partie de pays plutôt riches, quand même. Les classements des Jeux Olympiques d'hiver sont encore plus fallacieux que ceux d'été, dans le sens où les pays qui ont des installations nécessaires à l'entraînement au saut à ski ou au bobsleigh, par exemple, ne sont pas si nombreux et plutôt avantagés. Pour nous voilà donc avec 93 pays participant aux Jeux Olympiques d'hiver sur les 200 que compte la planète. Pour les vainqueurs, chaque médaille est l'occasion de vanter sa discipline, son staff et bien sûr les autorités du pays qui le représente. C'est toujours l'occasion de vanter également l'idée de compétition et de revenir aux racines philosophiques du libéralisme économique. Eh oui, ça a l'air de rien comme ça, mais ça passe partout cette propagande sur « on est tous les uns contre les autres, c'est la lutte de chacun contre tous, de tous contre chacun ». Finalement, à travers le sport, les valeurs qui sont véhiculées sont pas du tout la coopération, mais surtout la compétition. Et cette compétition, elle nous permet malheureusement de revenir aux racines philosophiques du libéralisme économique et d'utilisation pas toujours heureuse de l'idée de la guerre de chacun contre tous de Hobbes et l'invention d'un darwinisme social au 19e siècle qui justifierait le fait que, bah oui, il y en a qui sont dans la merde, mais c'est un petit peu de leur faute quand même. Cette mise en avant de la compétition entre athlètes, entre États, avec le classement, hein, sert à nous faire oublier que dans l'essentiel de nos rapports sociaux, c'est la coopération et la solidarité qui est à l'œuvre. Et que des jeux collaboratifs seraient plus à même de montrer la réalité vécue par les populations. Enfin, les jeux sont l'occasion de gaspiller des ressources précieuses pour se la péter, que ce soit la construction des installations, la cérémonie d'ouverture, les tenues portées par les athlètes, les cérémonies de remise de médailles, les médailles elles-mêmes, qui seraient fragiles d'ailleurs. Tout est bon pour faire du spectacle. Alors que nous avons le plus besoin de sobriété. Les manifestants du dimanche 8 février à Milan critiquaient, et dans d'autres villes d'ailleurs, critiquaient allègrement la fausse durabilité des Jeux Olympiques. Le caractère anti-écologique de cette démonstration sportive également. Eh bien, figurez-vous qu'en 2030, c'est en France que ce spectacle affligeant doit avoir lieu. Un certain Edgar Gros-Piron, président de Alpes Françaises 2030, c'est le nom officiel de Jeux Olympiques d'hiver en 2030, disait ceci en février 2025 à propos de la tenue des Jeux en 2030, en France, dans les Alpes. Pour y parvenir, Pas de recette miracle, mais du travail, de l'engagement et une équipe mobilisée au quotidien. Réfléchir ensemble, trouver des solutions concrètes, décider ce qui est bon pour sublimer notre projet, agir fermement pour être au rendez-vous des engagements pris envers le CIO. Ah oui, et ben d'ailleurs, le premier engagement, c'est déjà la ligne de crédit ouverte pour éponger les déficits qu'engendreront les Jeux. Le Comité international olympique ne paie jamais. Le CIO ne paie jamais. C'est donc sur le budget du pays que seront payées les dettes. Est-ce bien la priorité ? La tenue des Jeux pose aussi un problème démocratique. Personne n'a été consulté sur les conséquences écologiques de ces Jeux en contradiction avec les lois votées par nos soi-disant représentants. Très bon article sur le sujet dans CQFD ce mois-ci. Oui, ce serait peut-être pas mal que nos soi-disant représentants respectent au moins la parole qu'ils sont censés représenter, puisque je rappelle qu'il y a des lois. Et que les lois, normalement, obligent quand il y a un certain nombre d'aménagements, quand il y a des constructions qui ont une certaine taille, à demander à la population ce qu'elle en pense. Paul partager la décision, faut pas déconner, on est dans une démocratie représentative. Donc l'élu a tous les droits, mais quand même lui demander son avis à la population. Eh bien figurez-vous que là, la société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, a dit « Ouais, non, allez, fermez le banc, on n'en a rien à faire de vos trucs, nous on fait déjà des réunions d'information. » Un article du Parisien, le journal, en date du 27 janvier 2026, nous informe sur la décision du tribunal administratif d'obliger la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, a demandé l'intervention de la Commission nationale du débat public pour toutes les constructions nécessaires à la compétition. Ces gens-là, faut les emmener devant les tribunaux. Sinon, nous, on continue notre délire. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de faire du spectacle, mon gars. Parce que l'important, c'est dans le monde du spectacle, c'est quand même le spectacle. Pour en savoir un petit peu plus sur les JO 2030, il existe un site d'un collectif citoyen, JOP, parce que le P, c'est Paralympique 2030. Ça s'intitule tout simplement Collectif Citoyen au singulier, Collectif Citoyen JOP2030.fr. Et puis comptons sur nos forces, parce que les acteurs du moment se déchirent sur fond d'accusations de mauvaise gestion, de mauvaise communication, en clair de mauvaise coopération. Mais que peut-on attendre de fans de la compète ? Alors monsieur Edgar Gros-Piron, il a des petits problèmes avec son équipe, où des gens démissionnent, en veux-tu, en voilà. Pourquoi ? On vient de le dire, mauvaise gestion, mauvaise communication, mauvaise coopération. Et lui, il ne lâche rien. On sent bien que les Jeux de 2030 à domicile, c'est son Everest à lui. Le 26 janvier dernier, il écrivait sur le réseau social LinkedIn « Beaucoup d'observateurs s'émeuvent des difficultés rencontrées par le COJOP ». C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'enjeu n'est pas seulement de s'inquiéter des difficultés, mais bien de comprendre pourquoi elles existent. Constat. Et un peu plus loin dans le message, si nous rencontrons des difficultés, c'est parce que je porte une ambition des plus élevées. Je ne me résous pas à livrer des Jeux Olympiques et Paralympiques ordinaires, ni à me cacher derrière l'excuse du temps ou de contraintes budgétaires. Ça m'a furieusement rappelé la pensée complexe du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Et ça nous en fait tout un tas de mecs à gros melons quand même. Ce serait pas mal de s'en débarrasser. Oui, s'en débarrasser, c'est-à-dire avoir comme personne qui organise une partie de ce que nous voulons, des gens qui n'ont pas un gros melon. On aurait pu vous parler également du procès de 9 CRS qui ont tabassé des manifestants le 1er décembre 2018 à l'intérieur d'un Burger King à Paris. Ça s'est déroulé cette semaine, le procès. Pour en avoir un résumé édifiant, on vous conseille le site oposte.fr. Chacun se souviendra de l'auteur de Une France qui se tient sage. Pour en avoir un résumé édifiant, donc oposte.fr qui s'intéresse aux activités des forces de l'ordre pour le jugement. À savoir, est-ce que ces 9 CRS là auront quelque chose du fait d'avoir tabassé des gens qui leur faisaient rien du tout, coincés dans un Burger King. C'est le 17 mars. Mais finalement, on a préféré vous parler, donner la parole pour la dernière fois à Thomas Simon de Fréquence Commune à propos des municipales. Oh, j'ai perdu mon jingle. Qui a volé mon jingle ? Ah, c'est pas possible. Ah, les dieux sont contre moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ça devrait aller à un moment. Je pars à la recherche du jingle, ou alors je le fais à la bouche. Ah, je sais que des gens s'en sont pas trop bien remis la dernière fois que je l'ai fait. Donc, et puis en plus, j'imite très très mal lui, là.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
La presse militante fait le boulot pour connaître la nuisance de la mise au pouvoir d'une liste d'extrême droite dans votre commune. En relation avec plusieurs sites d'information et des journaux papier du sud de la France, Le Point, alors Le Point avec un G, hein. Donc Le Point, un journal de Montpellier, non pas le sac à pub de François Pinault hein, avec un T, non non là Le Point avec un G, c'est à coquiner avec plusieurs autres journaux. Et sur le site Le Point avec un G.fr, retrouvez une enquête sur 10 communes du Sud qui ont voté extrême droite. Les conséquences sur la culture, sur les associations, le tri par les subventions, le social en berne, classique pour des libéraux, le poids mis sur le sport, vive la compète, classique pour des libéraux. Allez voir ça sur lepoint.fr, point avec un G. Ce travail est d'ailleurs relayé par l'excellent portail de chez Basta. Basta, un autre journal en ligne. Une ouverture sur des infos pas produites par de l'employé de milliardaire. Bah, ça change un peu. Allez donc voir ça sur portail.basta.media. Tout est au singulier. La presse locale et nationale donc se remplit en ce moment d'articles à propos des municipales à l'approche des échéances. À savoir le dépôt des listes, par exemple, qui aura lieu fin février. Et les scrutins des 15 et 22 mars. Dans les titres, on trouve souvent, le plus souvent, machin ou bidule qui présente sa liste. Déjà un mauvais point pour la boussole démocratique trouvable sur actioncommune.org, action et commune c'est au pluriel, dans l'onglet ressources, dans la partie désignation des candidats. Dans la colonne, la liste n'est pas citoyenne ni participative, on peut lire. La liste est à l'initiative, donc la liste n'est ni citoyenne ni participative, si la liste est à l'initiative d'un ou d'une candidate qui se propose d'être le futur maire de la commune et qui mobilise autour de lui. Si les autres candidats sont désignés par cooptation, par opportunité, en fonction de leur notoriété et de la donne politique locale, selon des logiques d'appareil ou d'entre-soi, et en dehors de tout processus démocratique. Ah oui. À l'inverse, quand on lit les intitulés des listes, le collectif est souvent présent. Par exemple, Stéphane Le Foll préside une liste qui s'appelle Le Mans nous rassemble. Idem, Marietta Caramanli parle de l'union pour Le Mans. Alors, la tentation verticale du pouvoir, comment gérer finalement dans les listes participatives et citoyennes cette tentation verticale du pouvoir? Nous avons demandé à Thomas Simon de la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Fréquence Commune, qui nous accompagne depuis deux émissions déjà. Donc Thomas Simon, on lui a demandé si cette tentation verticale du pouvoir existait également dans les listes participatives et citoyennes et comment ça se gérait. Il avait terminé la dernière fois en nous disant que il était nécessaire d'aller jusqu'à modifier la Constitution. Bah alors, une fois que la Constitution sera devenue démocratique, il faudra encore surveiller l'ego de nos représentants comme le lait sur le feu. Et à propos, on écoute donc Thomas Simon.
Une fois qu'on aura changé la Constitution, il y a quand même un problème qui perdure, c'est la personnification du pouvoir. Là, est-ce que vous avez des billes ?
Oui, c'est un vrai sujet qui est travaillé par les listes citoyennes participatives parce que le pouvoir, aujourd'hui, il est très incarné. On voit dans les listes que les discussions sont notamment autour des affiches. C'est anecdotique, mais est-ce qu'on met une affiche, une personne en les affiches électorales? Est-ce qu'on va mettre en avant la tête de liste, un binôme, un trinôme, le collectif derrière? Voilà, c'est la question. Et c'est surtout la capacité de délégation, de pouvoir de la personne en haut de l'affiche, que ce soit un maire, un président d'intercommunalité ou un président du pays, je veux dire. Déjà, la méthode de désignation de cette personne-là va compter sur qui on va choisir. Est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui est capable de se mettre en avant ou est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui est capable de déléguer le pouvoir et qui va être mis en avant par le groupe? Donc nous, on utilise des élections sans candidat pour choisir les têtes de liste. C'est pas du tout la même manière de désignation et dans la mécanique de vote, ça crée le fait que c'est pas les mêmes personnes qui y vont du coup parce que c'est le collectif qui choisit, c'est pas des gens qui se mettent en avant. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est que le système aujourd'hui est très très organisé autour de notamment du maire ou du président de l'interco. C'est-à-dire par exemple, il a des collaborateurs. À Poitiers, la maire elle a 7 personnes qui travaillent pour elle, qui lui font les notes et tout. Donc ça lui donne énormément de pouvoir. Et donc il y a à plein d'endroits comme ça, il y a énormément de choses à inventer pour diminuer le pouvoir du maire et de la maire, pour dépersonnifier, pour penser collectif. La maire de Poitiers, elle le fait très bien, elle dit du « nous » tout le temps, elle met en avant ses adjoints, elle dit « moi, je ne sais pas ça », demandez à l'adjoint concerné. Donc voilà, c'est tout ça, mais ça, c'est une culture collective à réapprendre, d'arrêter d'attendre un messie, un chef éclairé qui va trouver des réponses à nos problèmes, et de se dire qu'on va les trouver collectivement et qu'on n'a peut-être pas besoin d'une personne identifiée, mais de plusieurs. Et donc, concrètement, là, pour terminer, ça se traduit par des binômes, des trinômes tête de liste qui sont mis en avant par les listes participatives, déjà pour passer de 1 à 2, 3, et le collectif qui est mis en avant, voilà. Mais ça, c'est une bataille culturelle collective qui prendra aussi des années.
Vous avez parlé d'élections sans candidat. Comment cela est-il possible ?
Alors, l'élection sans candidat, c'est une technique qui est utilisée depuis maintenant pas mal d'années, qui vient de la sociocratie. Donc, c'est une technique de désignation de personnes. C'est assez facile à mettre en place. Il y a des méthodos sur Internet pour expliquer ça assez facile. En gros, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir une série de personnes qui se présentent devant le groupe en disant « moi, je suis candidat pour être tête de liste », on organise un moment dans le collectif où chaque personne va nommer la personne qu'il verrait bien candidat tête de liste. Et donc, chacun son tour, la personne dit, c'est un vote à bulletin ouvert, dit pourquoi il nomme telle personne du collectif. Et ça permet d'avoir X votes pour X personnes. Ensuite, on permet aux gens de faire un report de voix, c'est-à-dire qu'éviter toutes les stratégies, tu peux changer ton vote si jamais tu veux. Et après, on va réfléchir ensemble si la première personne qui a eu le plus de voix est apte à avoir ce rôle-là. Et que à la fin, on va lui demander si elle est d'accord. Il y a tout un processus que voilà, donc je peux pas. C'est difficile de le résumer, c'est assez technique. Mais en tout cas, ça permet. Il y a des super belles histoires de désignation de tête de liste, voire de maire de commune. La maire de Poitiers notamment a été désignée comme ça, mais beaucoup d'autres communes l'ont été aussi, qui permet en fait de faire sortir quelqu'un d'inattendu, qui n'est pas le leader charismatique, qui est souvent un homme très engagé, qui a le temps, mais une pépite qui ne s'y voyait pas et qui est légitimée par les gens et qui entend 10, 15 personnes dire pourquoi il la verrait bien candidate à ce poste-là et qui lui donne de la puissance et de la force pour y aller, alors qu'elle ne serait jamais mise en avant toute seule si ça avait été un processus de vote classique.
En voilà de la bonne pratique, des bonnes pratiques qui rendront bientôt obsolète l'élection de la figure messianique que l'on nous propose à chaque fois et qui nous déresponsabilise totalement de notre rôle politique de citoyen. Eh bien, ces pratiques sont trouvables sur les internets et bien sûr dans le rapport d'analyse de pratiques édité par Fréquence Commune, un rapport dont nous avons abondamment parlé dans les émissions précédentes, à savoir prendre le pouvoir pour le partager, qu'on peut télécharger sur fréquencecommune.fr dans l'onglet « Ressources ». Vous cherchez le rapport d'analyse 2020-2026. Et en conclusion, eh bien redonnons la parole comme ça, sans question, à Thomas Simon. Qu'est-ce qu'il avait envie de nous dire qu'on aurait pu poser comme question mais qu'on n'a pas fait ?
Donner envie aux gens de « allez-y, c'est possible, vous êtes légitime, lancez des listes chez vous, allez soutenir des listes qui prônent de la démocratie plus directe. Et c'est possible de changer de système. On l'a vu dans plein de communes, allez voir ce qui s'est passé dans les communes participatives. Et dans un moment de résignation tel qu'on le vit aujourd'hui avec des... On est un peu tous dans une stupeur et on ne sait pas trop comment agir, mais au niveau local, on peut vraiment bouger les choses sur la vie des gens et on peut réorganiser une autre manière de faire de la politique. J'ai envie de dire, allez-y.
Allez-y, bah oui, il y en a qui s'y collent, alors allez-y. On vous rappelle que sur la Ferté Bernard, il y a une liste qui s'appelle la Ferté Citoyenne. Ils ont fait le boulot depuis le début de l'année 2025. Alors c'est sûr, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et là, bah, ça y est, la liste est complète. On en saura un peu plus dans les prochaines émissions parce qu'on va recontacter Alexis Gitz, qui est donc la tête de liste de la Ferté Citoyenne, désignée alors qu'il n'était pas forcément candidat. Dingo, non. Alors, petite attention sur les élections municipales, une petite alerte enlèvement ou presque. L'Institut La Boétie a produit un ouvrage intitulé « Pour un nouveau communalisme, ce nouveau communalisme n'est pas le vrai ». Non, attention, pour un nouveau communalisme, bah déjà, faudrait s'appuyer sur l'ancien. Celui de Murray Bookchin, réactualisé par ses épigones. Non, le communalisme de l'Institut La Boétie, un réservoir de pensée très proche de LFI, est simplement un accompagnement de la démocratie représentative et non pas ce que proposaient Murray Bookchin et ses suiveurs, à savoir Mister Romero par exemple, c'est-à-dire un dépassement de cette démocratie représentative vers la démocratie directe. Contre la récupération de ce concept, on lira avec avantage la recension de l'ouvrage de l'Institut de la Boétie sur le site écologiesocialetcommunalisme.org. Écologiesocialetcommunalisme.org, vous cherchez dans le communalisme Ah, vous allez savoir à quoi ça ressemble au départ, et puis ben, ce qu'ont voulu en faire, enfin ce que veulent en faire des gens de l'Institut de la Boétie. Voilà, et ben ça nous pose un petit peu les difficultés que l'on peut avoir avec des histoires de récupération. Et quand un concept devient intéressant pour la démocratie directe, eh ben, il apparaît que d'aucuns essayent de le récupérer pour continuer à faire de la démocratie représentative. Ça craint un tout petit peu, c'est ce qui s'est passé à Angers, hein. Vous vous souviendrez que les collectifs citoyens ont été phagocytés par un groupe de partis politiques qui s'appelle Demain Angers maintenant, et d'ailleurs symboliquement les collectifs sur le site, les collectifs ont leur logo après ceux des partis. On a eu la même chose en 2020 avec la liste Le Mans en commun qui n'a pas pu émerger véritablement comme il aurait fallu qu'elle le fasse parce qu'il y avait des luttes d'appareil. Qui rendent la vie démocratique toujours un peu plus compliquée. On en reparlera la semaine prochaine parce qu'on est allé voir Maël Briand de la liste LFI, tête de liste LFI, quand il a fait son meeting le 4 février. Et donc, on en reparlera. Mais en attendant, eh bien, on ne peut pas se quitter sans donner la parole à...
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Que vous dire de plus ? Eh bien que ce samedi 14 février, pour les auditeurs du direct, à 14h, il y a la malheureusement traditionnelle manifestation Place de la République pour soutenir les peuples en lutte avec l'armée israélienne, notamment au Liban, dans les territoires palestiniens. Et puis il y a également samedi 14 février à 15h, quai Louis Blanc, sur l'aire des camping-cars, un rassemblement. Des crêpes contre un projet immobilier, puisque depuis 1950, le terrain qui est l'objet d'un projet immobilier est libre de toute activité humaine, il nous est dit dans le communiqué. La nature a repris ses droits, transformant ce site en espace riche en biodiversité. Eh bien ça, il faudrait que ce soit rasé. Pourquoi ? Parce que ça doit être trop super de pouvoir vendre de l'appartement juste à côté du vieux Mans. Waouh, tu vas te faire des coronas de oro ! Eh oui, parce que les libéraux, je vous le rappelle, sont prêts à récupérer du pognon en veux-tu, en voilà, à n'importe quel prix. Et si pour ce faire, il faut détruire l'ensemble de l'humanité, je rappelle que pendant la fin du monde, il y aura toujours des affaires à faire. Donc ça se passe que Louis Blanc, air des camping-cars, à partir de 15h, des crêpes contre un projet immobilier. Que vous dire encore de plus ? Eh bien que nous sommes le 14 février, et que le 14 février, pour les auditeurs du direct, c'est tout simplement... un jour de fête obligatoire pour les amoureux. Je rappelle que les jours de fête obligatoire ne sont pas à respecter et que si quelqu'un vous demande une preuve de votre amour, n'oubliez pas de faire comme les Zabriskie Point, parlez-lui de la lutte des classes. Sinon, le vendredi 20, l'assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre aura lieu à l'Allumette à 18h30. Vendredi 20 février 2026, 18h30 à l'Allumette, 7 rue de la Marne. L'Allumette, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un centre social autogéré qui, je le rappelle, a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Ils sont 7 rue de la Marne les mercredis et samedis après-midi. Et puis, il y a des activités diverses et variées tout au long de la semaine. Voilà, on va se quitter là-dessus en vous disant tout simplement qu'on peut se retrouver à un moment ou à un autre dans une manif ou dans un lieu où ça discute. Et en attendant de se retrouver, je vous dis tout simplement allez, au revoir.